Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Dauphiné. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'esclavage moderne et la liberté. Plusieurs groupes vont donc partager leurs recherches avec nous. D'abord, commençons par une courte définition de la liberté. Donc c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on veut sans porter atteinte à la liberté des autres. On parle de cette liberté dans une fable, la fable de Buridan. Donc c'est un âne attaché à un poteau qui se retrouve à distance égale entre l'eau et l'avoine. Il fait donc face à un dilemme. Manger ou boire, il faut choisir. L'âne choisit malencontreusement l'avoine et par conséquent, il meurt de déshydratation. Cela explique donc que la liberté nous permet de faire des choix avec discernement ou non. La liberté, c'est pouvoir choisir. Parfois, nos choix sont bons, pour nous ou les autres. Parfois, ils sont mauvais. Il faut donc en assumer ou subir les conséquences. Au final, cette liberté n'est pas sans limite, mais en fait, ne sommes-nous pas esclaves de notre propre liberté ? Surtout aujourd'hui, avec toute cette technologie, avec quoi on peut tout imaginer. Les chroniqueurs qui ont préparé l'émission avec moi vont nous présenter leur travail. On commence par un sujet d'actualité qui fait débat. Pourquoi la Chine persécute un peuple et le réduit en esclavage ? Et quel est ce peuple ? On va maintenant écouter Isabelle et Nolan qui vont nous parler des Ouïghours.
Bonjour à tous. À l'occasion du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, nous allons vous parler de l'esclavage moderne, encore présent en 2023, et plus précisément de la condition des Ouïghours en Chine.
Au cas où certains ne le sauraient pas, les Ouïghours, c'est la communauté musulmane chinoise qui vit pour la grande majorité au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.
Depuis 1968, sous le règne de Mao, et encore aujourd'hui avec Xi Jinping, la Chine communiste a une volonté d'effacer l'histoire des minorités, quitte à employer la violence et l'oppression.
Mais dans ce cas-là, pourquoi l'ONU n'agit pas ? Eh bien, le fait est que la Chine avance un argument difficilement attaquable, la lutte anti-terrorisme. En effet, durant les années 2000-2010, le pays a dû faire face à un grand nombre d'attentats djihadistes, ce qui leur a permis de trouver l'excuse parfaite pour justifier la répression des Ouïghours.
Mais depuis combien de temps ça dure tout ça ? Difficile à croire, mais le massacre de la communauté a débuté dans les années 60. Ce massacre est aujourd'hui officiellement reconnu en France comme étant un génocide.
Mais comment la disparition de 11 millions de personnes,
soit l'équivalent de la population belge,
passe autant inaperçu sur la scène internationale. Le gouvernement chinois est malheureusement passé maître dans l'art du camouflage d'oppression. Le parti a choisi l'argument des camps de rééducation pour justifier ses commandes architecturales. Car oui, du matériel pour un camp de concentration, c'est assez suspect. Ces camps sont placés au fin fond du désert, sous hyper-surveillance, barbelés, où les victimes sont violées, torturées et assassinées.
Les preuves, elles n'en manquent pas. 70 documents officiels du parti adressés aux officiers de tout le pays.
Des victimes qui témoignent au micro de Arte.
En 2018, un étudiant canadien a même réussi à obtenir une photo satellite d'un camp.
Le remplacement des tombes par des tombes anonymes.
Cette menace est même ressentie dans la rue. Ce qui était en 2016 de belles oasis débordantes ne sont aujourd'hui plus que des villes mortes. Le Xinjiang se décompose.
Encore une anecdote qui fait froid dans le dos. En Chine, il est impossible de disparaître des radars de l'État pendant plus de 7 minutes, ce qui fait de la Chine le pays le plus surveillé. Et même chez eux, les Ouïghours sont traqués, via la semaine de l'ethnicité, une semaine par mois, durant laquelle un représentant du parti vit sous votre toit et bien sûr vous espionne.
Mais en tant que Français, comment peut-on lutter contre une menace aussi lointaine ? Il faut savoir que le travail forcé des Ouïghours profite actuellement de plus de 83 marques internationales. Nike, Apple, BMW, Adidas, H&M, Zara et j'en passe. Boycotté, l'utilisation du travail forcé a déjà fait ses preuves puisque Lacoste s'est maintenant engagé à ne plus en faire profit. Contre l'esclavage moderne, nous devons tous agir.
Merci beaucoup Isabelle et Nolan. Au revoir. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'impact de la puff. Vous savez, la cigarette sans nicotine que les jeunes consomment. Timéo et Yanis vont pouvoir nous en dire plus. Merci.
Bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet d'actualité. Les cigarettes électroniques jetables nommées puff. Yanis, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une puff ?
Eh oui mon cher, c'est très important de savoir ça. Appelées cigarettes électroniques jetables, ils ont l'air tout inoffensifs avec leur couleur vive et leur goût sucré. Sauf qu'avec leur taux de nicotine à 20 mg, leur niveau de vie entre 300 et 600 bouffées et leur prix tout à fait abordable de 7 euros, ce qui est inférieur à un paquet de cigarettes avec tabac qui est d'environ 10 euros, cela nous prouve une fois de plus que l'habit ne fait pas le cancer.
Sachant que pour vous rappeler que la puff est interdite aux mineurs, car elle fait partie de la catégorie des cigarettes, malheureusement, la facilité de s'en procurer est complètement absurde. Avec par exemple de nombreux sites d'achat qui sont très faciles d'accès pour les mineurs. Nous avons par exemple Nicovip qui a pour simple question « Êtes-vous majeur, oui ou non ?» ou encore les magasins comme Jiffy ou de nombreux bureaux de tabac qui ne demandent même pas la carte d'identité d'après l'actu.
Comme vous l'aurez sûrement deviné, les puffs sont originaires des États-Unis et ont été popularisés par divers réseaux sociaux utilisés par les jeunes, tels que TikTok, Instagram et Snapchat. Ils servent de placement de produits à divers influenceurs pour se faire un max de thunes.
Selon des sondages réalisés par l'Alliance contre le tabac, un ado sur 10, entre 13 et 16 ans, ont déjà utilisé la puff. 13% ont testé, 9% ont acheté. À cause de cela, 17% de ceux qui ont attaqué leur initiation à la nicotine avec la puff se sont tournés vers le tabac, alors que nous essayons de plus en plus de réduire le tabagisme en France.
Par rapport à ce qu'on pourrait croire, il y a peu d'effets sur la santé, à part des inflammations, des problèmes cognitifs, des dégradations du cœur et du cerveau, et des crises de manque. Pas grand-chose en fait. Tiens d'ailleurs, parlons de la proposition de loi que veut adopter le Sénat. Les jeunes se devront payer jusqu'à 6 euros le milligramme de liquide, ce qui reviendrait à 20 euros la puff. En voilà une bonne nouvelle.
Et du coup, sur le point de vue écologique, qu'en est-il de la puff ?
Et oui, très bonne question, avec le contexte actuel dans lequel nous sommes, forcément que cette question se pose. Et malheureusement, sur ce point de vue-là, les puffs sont un vrai désastre au niveau environnemental. Car une fois fini de la puff, il reste le contenant souillé avec des dépôts de nicotine, une batterie au lithium qui est un métaux non recyclable et une résistance. C'est pour cela que la puff doit être recyclée avec les appareils électroniques à la déchetterie. De plus, de nombreuses sont jetées dans les caniveaux devant les collèges et les lycées, ce qui pollue énormément, d'après l'actu.
Merci à tous mes très chers auditeurs d'avoir jeté votre puff à la déchetterie dans les appareils électroniques et d'avoir pris la résolution de ne plus jamais vapoter ce poison de votre life.
Merci de nous avoir écoutés et surtout, ne fumez pas.
Mais c'est nous qui vous remercions. Je vais maintenant demander à Lina et Khalid de nous informer sur les différents types d'addictions.
Bonjour à tous. Afin d'en apprendre plus à propos des addictions chez les jeunes, nous avons interviewé Suzy Boukian, éducatrice spécialisée et membre de l'association Tempo depuis septembre. Nous avons donc posé des questions à Suzy et elle nous a partagé son expérience et ses connaissances sur le thème des addictions. Nous avons commencé par lui demander sa propre définition d'addiction. Selon elle, l'addiction est une maladie qui évoque l'échec de la satisfaction.
Après, elle nous expliquait qu'une dépendance peut essayer d'être guérie grâce à un suivi psychologique et que nous devons lutter toute notre vie contre celle-ci. Quelque part, nous sommes tous soumis à une dépendance différente que nous choisissons comme nos téléphones, les jeux vidéo ou encore l'alcool et le plus fréquent, le cannabis. Les signes d'une dépendance les plus fréquents chez les jeunes sont de nombreuses absences et l'endormissement fréquent durant les cours.
Merci à vous, c'était très intéressant. Un peu dans l'histoire et nous intéresser à l'esclavage en France par Lali et Chérine, sur son fonctionnement et surtout son abolition.
Merci Valentin. La traite négrière atlantique débute au XVe siècle lorsque les Portugais commencent à acheter des hommes sur les côtes d'Afrique qu'ils explorent alors. La découverte du Nouveau Monde et sa colonisation par les grandes puissances maritimes européennes augmente énormément ce phénomène. Tout d'abord, la traite négrière commence dans les colonies françaises en Amérique, en 1642. 1 million d'esclaves seront envoyés aux Antilles entre 1713 et 1781. Chaque navire transportait entre 400 et 600 captifs et on compte en moyenne 9 hommes pour 5 femmes. Arrivés en Amérique, les esclaves travaillaient à toutes sortes de tâches. On les trouvait bien entendu dans les exploitations agricoles, cultivaient, récoltaient, construisaient des maisons, déchargeaient les bateaux. L'esclave peut être aussi utilisé comme serviteur ou comme concubine. Le propriétaire d'un esclave est quant à lui appelé maître. Mais au XIXe siècle, le temps du maître est compté parce que la loi va changer avec l'abolition de l'esclavage proposée par Victor Schœlcher le 27 avril 1848.
Né à Paris en 1804, Victor Schœlcher est journaliste et homme politique français. Il a consacré sa vie à lutter contre l'esclavage. Il sera militant de l'abolition en France jusqu'à sa mort en 1893. Il ne cessera de se battre contre l'exploitation dans les colonies françaises. Il publie d'ailleurs en 1830 dans la Revue de Paris l'article « Des Noirs » où il développe sa vision de l'esclavage. En 1833, il publie un premier ouvrage qui se nomme « De l'esclavage des Noirs, de la législation coloniale ». Dès le 4 mars 1848, le gouvernement provisoire lui confie la mission. Dès le 4 mars 1848, le gouvernement provisoire lui confie la mission de rédiger le décret d'abolition. La mise en œuvre de ce projet est délicate en raison de l'hostilité des colonies. En 1848, Victor Schœlcher est nommé sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies dans le gouvernement provisoire de 1848 par le ministre François Arago. Et il a été aussi nommé par la commission d'abolition de l'esclavage. Enfin, il est l'initiateur du décret du 27 avril 1848 qui abolit définitivement l'esclavage en France.
Merci à vous pour votre présentation. Maintenant, on va écouter Julie Zachary, qui va nous définir l'addiction aux écrans.
Oui, tout d'abord, il faut savoir que l'addiction aux écrans, c'est la sensation de vide, de tristesse ou encore de frustration, voire un comportement agressif. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à un écran, c'est le manque d'intérêt pour d'autres activités que celles passées sur écran. C'est le repli de soi, l'absence d'intérêt pour son entourage et pour les relations sociales en général. Il faut savoir que les personnes victimes d'addiction aux écrans sont totalement déconnectées du monde réel. Enfouies dans leur monde fictif des écrans, elles sont totalement dépendantes des écrans.
L'addiction aux écrans, c'est un problème croissant dans notre société moderne où les écrans sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. On peut voir cette progression grâce à ces chiffres. À 12 ans, 87% des enfants ont déjà un smartphone et vont sur les réseaux sociaux. Entre 11 ans et 14 ans, 70% des garçons et 68% des filles passent plus de 3 heures sur leurs écrans. Et on le voit bien, car sur 136 élèves de 6 classes, dont des secondes et des premières, 6% affirment passer entre 1 heure et 2 heures sur leur téléphone, 26% entre 2 heures et 3 heures, et 18% entre 3 heures et 4 heures.
Cette addiction peut avoir de nombreux effets négatifs sur la santé physique et mentale de la personne. Un des principaux effets de l'addiction aux écrans est l'impact sur la santé physique. Passer trop de temps devant un écran peut causer des maux de tête, des douleurs oculaires ou encore des problèmes de sommeil. C'est l'exposition prolongée à la lumière bleue des écrans qui peut perturber le rythme circadien de notre corps, ce qui peut entraîner des troubles de sommeil et de l'humeur. De plus, rester assis devant un écran pendant de longues périodes peut contribuer à l'obésité et à d'autres problèmes de santé.
L'addiction aux écrans peut également avoir des répercussions sur la santé mentale de la personne. La surconsommation d'écran peut entraîner une diminution de la capacité d'attention et de la capacité à se concentrer. Cela peut aussi causer de l'anxiété et de la dépression, en particulier chez les jeunes qui sont exposés à une grande quantité de contenu en ligne, seulement négatif.
Heureusement, l'addiction aux écrans peut être traitée et soignée. Le premier pas pour se soigner d'une addiction aux écrans est de reconnaître le problème et d'admettre qu'il y a un problème. Ensuite, il est important de fixer des limites pour la consommation d'écran et de s'assurer de suivre ces limites. Il peut être utile de se désinscrire de certaines applications ou de désactiver les notifications pour éviter les distractions inutiles. La thérapie peut également être utile pour comprendre les causes de l'addiction. On peut constater l'addiction grâce au fait que
sur 136 élèves de 6 classes dont des secondes et des premières, 67% des personnes disent perdre la notion du temps lorsqu'ils sont sur leur téléphone, contre 33% disent que non.
On peut aussi conclure que les Français passent de plus en plus de temps devant des écrans. Selon la dernière étude menée par l'INSEE, Internet connaît depuis plusieurs années une très nette progression. En 2010, les personnes de 15 à 19 ans passent en moyenne 2 heures et 9 minutes par jour devant la télévision. Désormais, le temps passé devant un écran, qu'il s'agisse d'une télévision ou d'un ordinateur, a augmenté. C'est une moyenne de 3h et 25 minutes par jour que l'INSEE a indiqué. Voilà, vous en savez beaucoup désormais sur la gravité, l'importance et la place de cette addiction au sein de la société.
Et vous, chers auditeurs, vous sentez-vous parfaitement libre ? Merci à vous et au revoir.